France Inter.
C'est comme pour un acteur, c'est la personnalité. Ta présence.
Vous répondrez non, ça serait de la bêtise.
Si tu veux être dans un de mes films, il faut que ça coule les ténèbres. Ok ?
Ça peut couler, hein.
On a pas tout.
Allez, action !
Ce qui sera encore mieux, c'est de ne rien dire. D'observer un moment de silence.
Une bonne musique de film ne s'entend pas, mais manque si on l'enlève. C'est tout son paradoxe, exprimer l'inexprimable par l'image. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à tous. Vous êtes 1 800 000 nous
écoutez. Soit, merci j'allais dire, 22 stades de France. En faisant la multiplication, le total est impressionnant. 20 dieux, merci à tous. Il travaille depuis 6 décennies sur cette relation complexe entre image et musique pour se couler sans se trahir dans le désir du réalisateur. Bonjour Éric de Marsan.
Bonjour.
Compositeur, oui, depuis 60 ans, de musique de film, de Jean-Pierre Melville à Guillaume Niclou, et entre les deux, Mocky, Costa Gavras, Le Comte, Le Roi, Zouka, et d'autres dont vos mélodies ont habité les images. La Cinémathèque française à Paris vous célèbre dans cette rétrospective du 15 au 23 janvier. À vos côtés ce matin, un archéologue des musiques de films, votre ami aussi. Bonjour Stéphane Le Rouge.
Bonjour Christine.
Concepteur et producteur de cette superbe collection Écoutez le cinéma, ouais, avec un point d'exclamation comme votre passion chez Universal Musique France. Merci Stéphane d'accompagner ce magnifique parcours musical d'Éric de Marsan dans le cinéma. Enfin, les sorties de ce deuxième mercredi de l'année, des Feux Sauvages à la chambre d'à côté, c'est parti.
France Inter. On aura tout vu. Christine Masson et Laurent Delmas.
On peut faire de l'art avec tout. On peut faire de l'art avec des cailloux, avec de l'herbe, avec des branches d'arbres, avec du plastique, avec un crayon et un papier. Et on peut encore faire de la musique, je vous assure, avec un crayon et un papier.
Ainsi chantait et parlait Michel Magne, compositeur entre beaucoup d'autres films, d'Un singe en hiver, Les tontons flingueurs ou Moulédier en sous-sol. Magne, celui qui vous a projeté, Éric de Marsan, dans la musique de film, vous qui à l'époque accompagniez au piano des artistes à Montmartre. Qu'est-ce qui vous a appris Michel Magne ?
Michel m'a appris toute la finesse de la façon d'écrire pour le cinéma. Parce que apprendre l'orchestration, apprendre tout ce qui est académique et qu'on apprend quand on est jeune, quoi. Ça, c'est une chose. Mais savoir comment faire sonner un instrument en fonction du dialogue, en fonction de la situation, ça, ce sont des choses que lui m'a appris.
Jusqu'à présent, vous n'aviez pas travailler sur l'image, c'est ça aussi qui vous a appris. Le rapport, comment composer une musique sur une image particulière.
Oui, et ça je l'ai appris en orchestrant pour lui.
Acquérir une technique rapide et efficace, et effectivement, et avec des ficelles, par exemple, comment restreindre une musique sur un dialogue. Jamais de piano, c'est ça.
Ah non, si, le piano c'est...
Jamais de cordes.
Ce qu'il faut éviter sur un dialogue, c'est plutôt les cuivres, et notamment et oui, le corps.
Parce que le mixeur peut tout écraser après.
Oui, c'est ça.
C'est ça.
Oui, oui.
Mais dans le fond, il y a une philosophie de la musique de film. Il y a des définitions qui sont très belles de la musique de film. Ce serait quoi la vôtre ? Vous voulez que je vous cite celle de...
Oui, tiens.
celle de Aaron Copland, je la sais parce que c'est Stéphane Le Rouge qui nous l'a délivrée un jour. La musique de film est une petite flamme placée sous l'écran pour l'aider à s'embraser.
Oui, mais ça, jamais... Ça, c'est magnifique, mais ouais, jamais je trouverai un truc comme ça, moi.
Bah, mais vous, qui avez travaillé beaucoup, qu'est-ce qu'elle doit exprimer pour vous ?
Moi, je dirais plutôt que c'est la musique qui me porte et me supporte même depuis que je suis né, depuis mes 10 ans, quoi, depuis mes premières notes de piano, et que pour moi, mettre de la musique sur un film, c'est vraiment un accomplissement Et en même temps, à chaque fois que je fais un nouveau film, à chaque fois, je pense au suivant. Je veux dire, par là, je ne suis pas boulimiste, mais je crois que je ne peux pas vivre sans écrire, et notamment pour le cinéma ou la télévision. Mais...
Stéphane Leroux, c'est quoi là? On va en parler après beaucoup de la carrière de Éric de Marsan, mais c'est quoi sa particularité?
Alors, Chris, je vais vous répondre en rebondissant sur cet extrait étonnant que vous avez diffusé, c'est-à-dire
Michel Magne.
Parce que j'ai interrogé à plusieurs reprises Costa Gavras sur son rapport à ses compositeurs, et Michel Magne a été son premier compositeur,
oui.
Avant que des années plus tard, il travaille avec Éric sur Section Spéciale, qui fait d'ailleurs l'ouverture
de la Cinémathèque.
Et en parlant de Magne, Costa m'avait dit, Magne était un peu une figure un peu jet-set des années 60, il faisait 12 films par an, on le voyait à Saint-Tropez l'été avec Eddie Barclay, Sagan ou Vadim, l'hiver à Megève ou Courchevel, etc. Et finalement, son drame, ça a été d'être trop à la mode. C'est-à-dire qu'une fois que la mode est passée, on lui a collé une image de out et on a oublié les qualités propres de son écriture. Et j'ai dit à Costa, et Éric, pour toi, Éric de Marsan. Il m'a dit, mais Éric, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que Éric, dans sa modestie, dans sa discrétion, dans cette position un peu en retrait, finalement, ça lui a permis de traverser le temps. C'est-à-dire que le grand public ne connaît pas forcément son visage. On n'a jamais vu de photo de lui à Ibiza dans les tabloïds. Et finalement, il a réussi à nouer des collaborations comme ça sur plusieurs décennies, comme vous le disiez, avec des tas de cinéastes différents.
De Michel Magne à un autre maître, un autre génie, François de Roubaix, voilà, on écoute, c'est sur la BO du Samouraï de Jean-Pierre Melville, sur lequel vous avez fait la direction d'orchestre et des arrangements. C'est quoi les arrangements? Pardon pour cette question un peu naïve, mais c'est quoi?
D'abord, je trouve que l'arrangement, c'est pas vraiment... c'est pas comme ça qu'il faut appeler la musique pour orchestre, pour le cinéma. Moi, j'ai pas fait les arrangements, j'ai fait les orchestrations, parce que arrangement, ça veut dire que on prend quelque chose qui existe et on le dénature ou on l'améliore.
C'est vrai, ouais.
Alors que les orchestrations, c'est carrément ce que le musicien, que le compositeur veut. Donc c'est ça que j'ai fait.
Vous l'avez découverte quand, cette mélodie, Stéphane Leroux?
Je pense
avec le film.
Je l'ai découverte avec le film, tout comme L'Armée des Ombres. Je me souviens très très bien, par exemple, d'avoir vu L'Armée des Ombres au dossier de l'écran.
Ouais.
Et c'était très étrange parce qu'à côté de la musique d'Éric de Marsan, dans le film, il y a une citation d'une œuvre d'un symphoniste américain, Morton Gould, Spirituals for Orchestra, qui était aussi le générique des dossiers de l'écran.
Ouais. Donc, la musique qui nous a fait peur
pendant des années. Donc il y avait une mise en abîme. Et la même semaine, j'avais 14 ans, j'ai vu Les Spécialistes de Patrice Lecomte. Et là, je me suis dit, mais finalement, c'est le même compositeur.
Ouais.
Et j'ai dû, sûrement adolescent, prendre conscience à ce moment-là, qu'être compositeur pour l'image, c'était comme un travail de comédien qui, d'un film à l'autre, changeait de personnage et de costume.
À partir de là, donc, à partir du Samouraï, Melville vous repère et va vous engager effectivement pour L'Armée des Ombres, ce très grand film daté de 1969, on rappelle en deux mots, 1942, Gerbier s'éventura, l'un des chefs de la résistance, dénoncé et capturé, plus au casting, s'il vous plaît, Paul Meurice, Reggiani, Signoret, une époque, un climat délétère, on écoute.
Le mot « aimer » n'a de sens pour moi que s'il s'applique au patron. Je tiens à lui plus qu'à tout. Plus qu'à tout, mais moins qu'à la vie. Luc Jardy disparaissant, je voudrais tout de même vivre. Et je vais mourir. Et je n'ai pas peur. C'est impossible de ne pas avoir peur quand on va mourir. C'est parce que je suis trop borné, trop animal pour y croire. Et si je n'y crois pas jusqu'au dernier instant, jusqu'à la plus fine limite, je ne mourrai jamais. Quelle découverte. Et comme elle plairait au patron.
Thank you.
thème de l'Armée des Ombres avec cette, ce piano soliste, c'est ce sentiment d'épure. Et je trouve ce qui est magique dans le film, c'est d'avoir des actions héroïques, mais avec une musique qui est tout sauf héroïque. Et ça renforce le sentiment de la grandeur, je trouve.
C'est le thème de Gerbier, ça.
Le thème de Gerbier.
Ouais. Gerbier qui est Ventura. En plus, vous avez composé cette musique, Éric de Marsan, sans en voir une image du film.
Mais en sachant quand même que c'est Joseph Kessel, plus Jean-Pierre Melville, plus l'ombre de Jean Moulin, c'est quand même pas rien, quoi. Il n'y a pas une paralysie d'abord du compositeur en se disant mais qu'est-ce que je vais faire avec ça, quoi, avec ce matériau-là.
C'est-à-dire que Jean-Pierre m'avait quand même raconté en trois mots ce que c'était, ce qu'on vient de dire d'ailleurs. Et c'est pour ça que cette musique, elle est vraiment presque simple, quoi. C'est ce qu'il voulait, lui. Il voulait quelque chose de...
Il vous dit, je voudrais un thème très pur, dépouillé, sans fioritures, ni violon plaintif, un thème grave et lyrique. Ouais. Bon, il y a de la définition au-dessus, donc comme disait Laurent aussi, il y a de la pression, non?
Oui, mais vous savez, j'étais jeune.
30 ans.
Quelque part, oui, parce que je me souviens, plusieurs fois ça m'est arrivé de faire un thème, le thème du générique, en sortant d'une projection ou dans ma voiture, je m'arrêtais, je notais des trucs, et pour le thème de Gerbier, c'était un peu ça. Je suis rentré chez moi, j'ai écrit, une semaine après je suis allé le voir. Et je lui ai joué sur un clavier électrique, là. Et tout de suite, ça a fonctionné.
Il a dit, c'est bien.
Oui. Et maintenant, il m'en faut une autre. Il faut un autre thème pour s'ignorer.
Mais c'est vrai qu'il pouvait changer de place thèmes que vous écriviez.
Ah oui, complètement.
Ça c'est perturbant.
La musique 1, il la mettait à la place de la 27, etc. Ouais. Oui. Le défilé allemand... Je crois qu'il a changé au moins 5 fois de place en début et ou en fin, et en début et en fin.
Les thèmes pouvaient changer de place, effectivement, et sans regarder les images. Ça vous aurait plu, par exemple, une expérience comme Ascenseur pour l'échafaud avec Miles Davis qui compose sur les images? Ça vous aurait aidé, ça?
J'improvise, ouais.
Oui.
J'y ai jamais pensé.
Non.
Mais en effet, ça aurait été bien. Ouais.
Et tu l'as fait un peu avec dans le film de Pierre Zucca, Robert, où il y a deux. C'est à la fois écrit, mais il y a aussi une partie improvisée.
Improvisée, oui. Quand même, oui, ça se.
Avec deux saxes très frits sur un rythme de tango. Ouais.
Sur un malentendu, ça n'a pas marché avec lui, Michel Legrand, donc qui, Melville, vous a engagé sur la BO du film suivant, qui est Le Cercle Rouge, 1970. Un commissaire, c'est quand même Bourvil, convoie un détenu, c'est Delon, qui s'échappe d'un train dans la nuit, sera rejoint par un type Corrèze, c'est Gian Maria Volonté, qui prépare un casse, rejoint tous les deux par un ancien flic, devenu criminel, c'est François Perrier.
Il n'y a pas d'innocent. Les hommes sont coupables. Ils viennent au monde innocents, mais ça ne dure pas.
Tu es le seul à qui j'oserais proposer une affaire. Classique, sûr, sans risque, si elle est bien faite. Et si elle est mal faite?
Je vous charge de retrouver Vogel par tous les moyens. Et quoi qu'il vous en coûte.
Vous pensez qu'il va réussir?
Il arrivera. Pour une fois, le gibier est intelligent.
Ce sera de l'ordre de 2 milliards d'anciens francs. Prix de vente.
Il reste à trouver le tireur d'élite.
J'ai connu il y a 4 ou 5 ans un très bon tireur. Un policier.
Éric de Marsan, chez Melville, il y a un climat de fatalité, un côté inexorable, quoi. C'est ça qu'il fallait traduire, en fait, en musique, non? La fatalité.
Oui, je me souviens d'un moment, pardon, dans le film, où Delon prend l'ascenseur juste avant le casse, et il descend, et on voit son visage... avec très en ombre, lumière, comme ça. Il m'a dit, vous voyez, ça, il va mourir, mais personne ne le sait encore.
Mais ce que vous mettez là, dans ce qu'on entend là, sous nos voix, c'est de l'humanité dans un film qui est par ailleurs glacé, glaçant, qui décrit un univers masculin, où vraiment les plans sont gris. Et là, votre touche, c'est de mettre quand même cette musique avec un peu de lyrisme, un peu d'humanité.
Oui, c'est-à-dire que où ça reparaît, je pense, le plus souvent, c'est la rencontre entre Delon et Volonté. Quand il sort du capot de la voiture. Là. Et là, c'est un petit peu lyrique.
Il vous a donné une référence, Melville, la musique de John Lewis pour Le coup de l'escalier de Robert Wise. Il vous a fait regarder une scène 30 fois.
Oui, oui.
Non, mais c'est fou.
Alors déjà, j'ai vu le film avec lui au moins 3 fois, et après, la scène en question.
Non, mais moi, ce qui me fascine, c'est que Melville était un ogre à compositeur, puisqu'à chaque film, quasiment, il étrennait une nouvelle collaboration avec un compositeur différent, et que Eric a cette chance, cette grâce d'avoir ce doublé Melvillien. Il est le seul compositeur à avoir fait 2 Melvilles. J'ai toujours pensé que finalement, avec Melville, le rapport était plus compliqué quand il avait en face de lui des compositeurs un peu, disons, aguerris ou installés, comme Georges Delerue ou Paul Mizrahi ou Michel Legrand, avec lesquels, avec ces trois-là, ça s'est très très mal passé. Avec John Lewis aussi sur le deuxième souffle, puisqu'il a refusé complètement sa musique. Mais avec des compositeurs comme Éric de Marsan ou François de Roubaix, peut-être plus jeune, il avait peut-être plus d'ascendant et il n'arrivait pas à se fâcher avec eux. Melville était procédurier. Quand il signait un contrat avec un producteur, Robert Dorfman, il mettait le contrat dans un dossier en marquant « Affaire Dorfman », parce que c'était une assignation ou un référé potentiel. Et il a dit un jour, il dit « Mais De Marsan, je suis un peu frustré avec lui, on n'arrive pas à se brouiller avec lui. » C'est vrai.
Ah ouais. Et ça allait très loin, le travail, parce qu'il y a un truc fou dans Le Cercle Rouge, c'est que Delon, dans sa voiture, écoute du jazz. Et on va vous passer cet extrait de scène où il se fait arrêter et on entend la musique de la radio. Et c'est vous qui composez la musique qu'on entend à la radio.
Toutes les musiques de radio.
Et allons-y.
Contrôle vos papiers, s'il vous plaît. Vous avez acheté votre voiture à quelle heure ?
Ce matin à 9h, avant de quitter Marseille.
Vous allez la faire charger et la mettre à maintenant sous vitesse. Votre adresse sur le permis est toujours la même à Paris ?
Oui, toujours la même. 19 avenue de Poitou.
Veuillez ouvrir votre coffre, s'il vous plaît.
Et même la musique de cabaret aussi, vous composez aussi numéro de cabaret, la musique du numéro de cabaret.
Ah oui, ça c'était vraiment... d'abord, c'est très intéressant à faire, mais en même temps, c'était très difficile, parce qu'il y avait eu... Michel Legrand était passé avant... Et il avait enregistré les musiques de cabaret les pas des danseuses,
les chorégraphies.
Et il a fallu que je me remette dans les pas des danseuses, mais les pas de Michel Legrand qui avait mis ses pas dans les
danseuses. Double peine. Double peine. Est-ce que c'est bien quand le metteur en scène, je parle en général, connaît la musique ?
Je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien, faut pas qu'il abuse trop quand même avec le compositeur, mais non, ça m'est pas arrivé. Moi, j'ai juste eu 2-3 metteurs en scène avec qui j'ai jeté mes partitions en l'air et que je suis parti, mais ou bien qu'ils m'ont viré, ça aussi.
Hein. Ouais. Vous dites, il faut se méfier aussi des réalisateurs qui disent « je te fais confiance ».
Oui.
Pourquoi ?
Oui, parce que je sais plus lequel m'a dit ça, il m'a dit « moi ».
Pas de nom.
Non. Non, mais je balance pas.
Hein. Bah ouais, non. Comparé à d'autres.
Bah, oui, quand même. Voilà. Non, il m'a dit, moi je sais où je place ma caméra, alors toi tu dois savoir ce que tu écris.
Waouh, d'accord.
Mais ce sont quand même deux créateurs d'expressions différentes, et le cinéaste doit accepter que quelqu'un d'autre arrive et apporte un éclairage, une subjectivité, et parfois fasse remonter par la musique, fasse remonter dans l'image des éléments auxquels le metteur en scène ne s'attendait pas lui-même, forcément.
Absolument, oui.
C'est un travail d'interprétation.
D'autres suivront après Melville, et un notamment, on pourrait dire à l'opposé de Melville, même s'ils ont le même prénom, c'est Jean-Pierre Mocky, avec l'Ibis Rouge.
En mettant au troisième gauche, porte B, pour une commande, une flopée, une gamme des meilleures marques de liqueurs, fines, distinguées, On pourrait inviter de classe à des prix hors commerce, plus en boutique spéciale, enfin tout ça, numéroté.
Alors je peux vous faire goûter des échantillons dès que je... Ah, merci. Oh, j'ai une belle charte.
Vous êtes trop aimable.
C'est un oiseau, ça?
C'est un ibis.
Ah, c'est un ibis. Oh, là, on ne peut pas le jouer au poker.
Je ne joue jamais.
Ah, vous jouez.
C'est marrant, en réécoutant cette musique, on dit c'est vraiment une musique Monkey, ça.
Ah oui.
C'est curieux hein, de te dire ça. Et lui, alors lui, il aimait pas la musique de film, lui.
Et non, il aimait pas la musique de film. À chaque fois qu'il, enfin, il a fait quelques films avec un vrai score d'orchestre.
Oui, on va en parler après avec ouais. Stéphane qui nous a envoyé une super belle BO. Mais sur voilà.
Mais autrement, non. Il vous disait, ben, il me disait, écoute, j'ai besoin d'une minute trente de chœur russe, j'ai besoin de 25 secondes d'un tango, etc. Et j'avais une liste comme ça d'une douzaine de titres.
Une liste de courses, vous dites.
Voilà,
ouais.
Une liste de courses. Ouais. Et c'est tout.
Et surtout, d'un point de vue argent, il voulait pas que ça, coûte trop cher.
Non, c'était toujours trop cher.
C'était toujours trop cher.
Il m'a laissé une ardoise copieuse.
C'est vrai.
Mais tu m'as toujours dit qu'il avait un goût pour les musiques dites de genre, c'est-à-dire la valse et les marches.
Ah oui. Oui, il adorait les marches militaires et la valse. D'ailleurs, il en met très souvent. Il en mettait très souvent dans ses films.
Stéphane Le Rouge nous a envoyé une super belle BO que vous avez composée pour un autre film de Mocky. C'est L'ombre d'une chance. Stéphane a vous l'honneur de commenter cette sublime mélodie.
Je vais vous faire un aveu, je n'ai jamais vu le film. Jamais. Et je ne connais de ce film que la partition d'Éric. J'aime le timbre des mandolines parce que Éric a aussi un truc, c'est que c'est quelqu'un qui a souvent échafaudé des partitions sur des timbres décalés, bizarroïdes, déracinés de leurs origines ethniques ou folkloriques. Bah, là, les mandolines, il y a rien qui évoque l'Italie dans le film. Mais par exemple, dans l'humeur vagabonde de Luns, il y a 12 claviers, il y a le glass harmonica dans Attention les enfants regardent, il y a la scie musicale de l'ibis rouge qu'on a entendu tout à l'heure, etc. Et c'est aussi ça un peu le piment timbral, pardon pour le néologisme d'Éric de Marsan, je trouve.
N'hésitez pas à aller à la Cinémathèque le 23 janvier à 20h. Il est diffusé, L'ombre d'une chance.
Oui, voilà, je vais aller le voir.
On va écouter, parce que vous nous avez envoyé deux thèmes dans le même son, on va écouter ce deuxième thème qui est tout aussi magnifique. C'est quoi l'écriture horizontale et c'est quoi l'écriture verticale en musique?
L'écriture horizontale, c'est l'écriture qui fait chanter chaque partie de un violon, enfin les violons, ouais. Les cuivres, tout ça. On privilégie la mélodie.
Oui.
L'écriture verticale, c'est plutôt une écriture par accord. Successifs, des gros accords et où la mélodie évidemment peut apparaître mais c'est surtout dans l'écriture horizontale qu'on retrouve les plus belles mélodies.
On peut dire, question à vous deux, qu'il y a de moins en moins de mélodistes, Stéphane Le Rouge.
Il y a des mélodistes, il y a des tas de compositrices et de compositeurs, mais c'est quelque chose d'ailleurs qui est assez frappant quand on regarde le parcours d'Éric, notamment quand il rencontre Niclou sur une affaire privée, on va en parler, mais je me souviens très très bien que sur ton premier Niclou, une affaire privée, tu m'avais dit, c'est un formidable cinéaste, j'ai rencontré le fils caché que Melville aurait pu avoir avec David Lynch, mais... Il ne veut pas d'écriture thématique, il veut pas que les thèmes soient apparents. Et je pense que ça, ça vient pas des compositeurs ou des compositrices, ça vient des cinéastes.
Ouais, c'est ça. Et vous disiez, vous opiniez du chef quand je vous disais qu'il y avait moins de mélodistes qu'avant, c'est vrai, pour vous, selon vous ?
Ah oui, oui, selon moi, oui. Il y a beaucoup plus de boucles.
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire de quatre accords, par exemple, que l'on prend en boucle, et puis par-dessus on met des trucs électroniques, et très souvent c'est tout ce qu'il y a, il n'y a pas quelque chose qui émerge en plus, une mélodie qui... Voilà.
Lui, c'est pas Melville, c'est pas Mocky, c'est un cinéaste qui s'appelait Pierre Zucca, et Stéphane nous a envoyé la BO magnifique de ce film Robert. C'est très jazzy, ça, Stéphane.
Bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a deux sacs. C'est une partition complètement ovniesque. Et souvent, là aussi, j'ai mis du temps, moi, à la découvrir. Et souvent, quand je demande à Eric, mais quelle serait vraiment la partition dont tu te sentirais le plus proche au niveau du langage, de l'esthétique, il citait, et il cite toujours, Robert.
Mais Eric de Marsan, c'est le jazz, votre matrice ?
Ouais, je crois que... mes goûts ont toujours été vers le jazz symphonique, le jazz avec un grand orchestre, Count Basie, quoi. Vous voyez,
pour moi, je vois un peu, oui.
Oui, oui.
On va écouter encore. Vous vous rappelez de l'image qu'il y avait sur cette musique ? Tiens, il y a une image qui vous remonte, là, de Robert.
Oui, c'est quoi ? C'est le début du film.
Ouais, mais il y a quoi ? Il se passe quoi ?
On avance vers un escalier en pierre, puis on rentre dans un univers assez fou, et puis c'est à peu près tout. Il y a des plans comme ça qui passent sur la cour, sur cet escalier. Et voilà, c'est tout. C'est tout après, bien sûr. Et on va retrouver Klosowski, sa femme, etc. dans le... Mais c'est une espèce d'entrée en scène, une intro.
Ouais.
Il y a un truc très dérisoire dans cette musique. Il y a vraiment un goût pour le dérisoire. Et c'est un film, là aussi, mais c'est la quatrième dimension. On va en voir un extrait à la Cinémathèque, donc samedi prochain, lors de la rencontre avec Eric. Vous allez voir, quant au casting du film, vous avez Alain Cuny en voix off, et à l'image, Barbette Schroeder et Frédéric Mitterrand. C'est assez hirsute.
Et le couple Klosowski aussi.
Bien sûr, oui.
Enfin, plus près de nous, votre collaboration avec Guillaume Niclou, Stéphane Lerouge en parlait, et notamment pour ce film Une affaire privée, mais il nous a envoyé un truc très original, bien sûr, parce qu'il l'est, c'est la chanson que vous avez composée pour Marion Cotillard, qui n'est pas dans le film, ni dans le générique de fin.
Non, c'est bizarre.
Ouais, c'est bizarre.
Bah oui, mais c'est parce que... Niclou ne voulait pas de chansons. Et puis après, il m'a dit peut-être on pourrait faire. Donc il a fait un texte. Et moi j'ai fait la musique, on a enregistré. Manque de peau, le film était sorti, mais le disque aussi. Donc c'est. Enfin, le disque, je veux dire, la bande originale.
Ouais, ouais.
Et après, on a fait ce raccord avec.
Deux points, ouvrez les guillemets.
Où vont les disparus qui s'en vont ? Attendez, vu sur ce qu'ils feront. Au bord du drame, ils se rencontreront. Ils vivront.
Stéphane Le Rouge et Marion Cotillard, donc, qui chante et qui a fait ça en très peu de temps, en 3 jours, non ?
Ah oui.
Même pas, non, quelques heures.
Quelques heures, oui, je crois que... Ouais.
Et vous l'avez composé en quelques heures aussi ?
Oui.
Vous aimez bien être au pied du mur, vous, hein ?
Oui. Le dos au mur, moi, j'adore.
Le dos au mur, pardon, pas au pied du mur.
Aussi, les deux.
Aussi, oui,
les deux.
Vous aimez bien être bousculé, quoi.
Oui, oui, c'est quand j'ai plus de temps
que
ça fonctionne, quoi.
C'est chouette aussi de faire de la musique pour une actrice du film, non ?
Ah oui.
C'est rare, les actrices qui chantent bien.
Bah, Jeanne Moreau.
Ouais.
J'ai fait une chanson... Alors là, on a eu plus de temps quand même. Je suis allé lui montrer, lui chanter chez elle, et après, on est allé en studio, et après, on l'a mis dans le disque, et voilà.
On parle pas de télé, mais pourtant, il faut quand même le dire qu'en une demi-heure, vous avez composé la musique de Belle et Sébastien.
Ah oui, oui. Ah oui, c'est vrai. Oui, l'éditeur m'a téléphoné, mais tu peux faire une chanson en une demi-heure ? Je dis, bah oui, pourquoi pas.
Mmh. 1 600 000 disques.
Mmh. Oui, bah, on va pas en parler trop, je vais vous dire, parce que...
Ah, oula,
il y a un contentieux.
Il y a une question d'argent, là.
Super contentieux.
Fiscal, mais il y a prescription, c'était il y a 55 ans.
Et comme il y a prescription, on ne peut plus rien faire depuis longtemps.
Ah d'accord.
Bon. Désolé.
Avec le Canada, non. Non, je balance pas en disant ça.
Hein. Bah non, c'est votre histoire. C'est votre histoire.
Ah, c'est mon histoire.
Bah oui.
Moi, c'est une histoire d'éditeur. Ouais. Et voilà.
Stéphane.
Oui, je voulais juste dire pour boucler la boucle avec Nick Lou, c'est que on la verra aussi. C'est une séquence qu'on va voir à la Cinémathèque la semaine prochaine.
Oui.
Mais il y a un moment magique dans Une Affaire Privée où Nick Lou rend hommage à son compositeur. Une séquence où le personnage joué par Thierry Lhermitte, Manieri, est assis dans son appartement poubelle. Il est là, il vient de bouffer une pizza, de boire une bière, il zappe. Et il tombe sur un extrait de L'Armée des Ombres, la dernière séquence du film. Donc, il y a la musique de De Marsan de 69 qui sort du poste de télévision, qui se prolonge sur la séquence suivante, qui est un dialogue entre Thierry Lhermitte et Robert Hirsch.
Ouais.
Et dans la musique de 69, Eric fond la musique originale qu'il a composée donc, en 2002. Et c'est une espèce de fondu enchaîné passé-présent avec un cinéaste qui rend hommage à son compositeur et qui en même temps s'en sert comme un trait d'union, un chaînon manquant avec Jean-Pierre Melville.
Et on va boucler une autre boucle. Et pour conclure ce plateau, c'est cette musique-là de Melville à Melville, en fait, celle que Stéphane Le Rouge nous a envoyé aussi, Le Dernier Samouraï, le doc sur Melville. Compliqué quand même, vous avez travaillé avec Melville, il faut composer une musique sur un doc sur Melville. Compliqué et pas compliqué, en fait.
Non,
c'est
pour
votre
moi,
monde.
C'était très très simple.
Ouais.
Parce que je me suis retrouvé dans l'univers musical de Melville et que j'ai prolongé cet univers musical, évidemment avec d'autres moyens, avec moins d'orchestre, mais c'était c'est comme si j'étais revenu en 40 ans avant.
Merci pour ces superbes BO, vous êtes honoré à la Cinémathèque, Éric de Marsan, section spéciale, plein sud, L'Armée des Ombres, attention les enfants regardent, Le Cercle Rouge, L'Ibis Rouge, L'Indiscrétion, L'Ombre d'une Chance, Une Affaire Privée, c'est jusqu'au 23 janvier, on se retrouve pour les sorties, après Étienne Dao, Les Derniers Jours de Pluie.
De dresser contre les vents, ciel fou, zébré d'éclairs, empoisonne les sangs de pirates égarés en mer. Lorsque nos extrêmes se frôlent, nos éclats de voix et nos vers claquent comme des coups de fouet à l'alchimiste, à l'univers. Il te reste quelques kilomètres, mètres, avant que tu ne touches mon âme et que cessent les derniers jours de pluie. Il nous reste quelques kilomètres, mètres, pouvoir disparaître un jour peut-être, les derniers jours de pluie. Les yeux brillants des soirs de fête et le mal du pays. Le compte est à rebours jusqu'au bout du bout de la nuit. Premiers rayons éblouissants aux plus jeunes heures du jour. dessineront tous les contours de nos silhouettes endormies. Il me reste quelques kilomètres, mètres, avant que je ne touche ton âme et que cesse les derniers jours de pluie. Il nous reste quelques kilomètres, mètres, pouvoir disparaître un jour peut-être, les derniers jours de pluie.
France Inter, on aura tout vu. Christine Masson et Laurent Delmas.
On va commencer, c'est sûr, cette revue des films avec La Chambre d'à côté, le nouveau film de Pedro Almodovar. Ingrid et Martha, amies de longue date, ont débuté leur carrière au sein du même magazine. Lorsqu'Ingrid devient romancière à succès et Martha, reporter de guerre, leur chemin se sépare, mais des années plus tard, leurs routes se recroisent dans des circonstances troublantes. Martha va demander à Ingrid de l'accompagner dans son dernier voyage. Deux immenses actrices, une Amérique filmé par un grand cinéaste espagnol, comme un tableau d'Edward Hopper, sur un sujet très fort, leur rend une irréductible amitié face à l'irréductible, très théâtral, cérébral, élégant, limite maniéré dans les purs.
Oui, moi j'ai vu deux films en un et je suis pas certain que l'alchimie voulue par Almodovar fonctionne vraiment. Malgré la langue anglaise, le film fonctionne quand il met l'accent sur ce couple de femmes dont vous parliez, sur le dialogue qu'elle noue, depuis une chambre d'hôpital jusqu'à une grande maison très belle aux baies vitrées, qui d'ailleurs est située en Espagne et pas à Woodstock, contrairement à ce que l'histoire pourrait faire penser. Ouais. On est vraiment près de ces femmes. Mais le problème, c'est que Almodovar a eu l'envie, le besoin peut-être, de rajouter des personnages secondaires pas toujours convaincants, assez caricaturaux, et les flashbacks, à mon sens en tous les cas, ça ne fonctionne pas, l'alchimie ne fonctionne pas dans le mélange de ces deux récits-là, et on aurait préféré au fond rester avec ces deux femmes-là. Un film fantôme traversant tout le film d'Almodovar, c'est Les gens de Dublin, John Huston, et ça c'est vraiment magnifique.
Ou sur le cinéma nostalgique d'Almodovar, moi je préfère Douleur et Gloire. En fait, il s'est servi de l'Amérique pour peindre des lumières moins criardes. C'est ça qui est intéressant, façon de Edward Hopper. Les Feux Sauvages de Jason Ke, c'était à Cannes, Chine, dans les années 2000. Kakiao et Bin vivent une histoire d'amour passionnée mais fragile quand Bin disparaît pour tenter sa chance dans une autre province. Kakiao décide de partir à sa recherche en suivant le destin amoureux de son héroïne et sa femme dans la vraie vie. Jason Ke livre une épopée filmique inédite qui traverse tous ses films de 25 ans avec toutes ses images, mais il fallait quand même en faire un scénario.
Ah, moi je trouve qu'il est là parce que au centre du film il y a quand même cette actrice Zhao Tao qui est extraordinaire, qui est la l'égérie parfaite, l'inspiratrice du cinéaste, et elle sert de fil conducteur, de film conducteur presque, pourrait-on dire. Ouais. Et le cinéaste nous emmène effectivement à la recherche de ces films et de cet homme disparu. Il y a une métaphore comme ça qui traverse tout le film, qui est très belle. C'est mélancolique, c'est doux, et moi je trouve qu'on plonge avec délice dans cet univers où les signes de l'extrême modernité, comme souvent chez Jason Ke, eh bien côtoient ce qui est l'essentiel pour lui, évidemment, l'amour, encore et toujours.
C'est dommage de ne pas avoir repris la traduction du titre chinois qui signifie « Une génération à la dérive ». C'est vraiment ça, le film. Bernie, c'est pas la ressortie du film d'Albert Dupontel, mais une sortie tardive quand même, puisque le film date de 2010. Il est signé Richard Linklater à Carthage, petite bourgade du Texas. Dans les années 90, Bernie, assistant croque-mort, est aimé par tous les habitants. Seulement, il va tomber amoureux de celle qui est détestée par tous les habitants. Une veuve très riche, et Shirley MacLaine, lui, c'est Jack Black. Il va finir par la tuer.
Oui, d'abord c'est émouvant de retrouver Shirley MacLaine dans un film en 2024, et 25 même, d'après une histoire vraie, et Linklater fait ce qu'il fait peut-être de mieux, c'est-à-dire de mélanger la fiction et le documentaire. On a déjà vu des procédés identiques chez lui. Il y a une construction qui est donc tout à fait intéressante, qui mêle cette histoire vraie mais racontée de façon fictive, et puis des entretiens face caméra avec ce qui semble être des témoin de l'affaire, qui a donc réellement existé. Au fond, le message de Linklater, c'est méfiez-vous des apparences. Je pense qu'il n'y a pas meilleur message quand on fait du cinéma. Hein, méfiez-vous des apparences et des images.
Ça s'appelle Bernice. La fille d'un grand amour, c'est le premier film d'une grande scénariste qui s'appelle Agnès de Sacy. Anna et Yves se sont aimés passionnément puis se sont séparés. Des années plus tard, leur fille Cécile réalise un documentaire sur leur rencontre. Ils se revoient à cette occasion, toujours marqués par leur amour passé. Ils vont alors chercher un chemin pour revenir l'un vers l'autre. Agnès de Sacy explore sa propre histoire et celle de ses parents. 32 ans avant, elle avait en fait réalisé un doc avec les vrais protagonistes.
Oui, c'est l'histoire qu'elle raconte. Alors, c'est le premier film d'une scénariste quand même très très douée. Hein. Moi, ses collaborations, par exemple, avec Pascal Bonitzer pour Chercheur Hortense sont absolument merveilleuses. Et on retrouve ici cette même sensibilité, cette même facilité, mais au bon sens du terme, narrative, cette façon très, très belle de tricoter les choses, de tricoter le temps et de le compresser en l'occurrence. Il y a un refus absolu d'une sensiblerie alors que le sujet pourrait laisser ouvert grandes les portes de ça, et le résultat est là. Damien et Carré forment un couple d'autant plus formidable qu'il explore une palette de sentiments incroyable et qu'il est fait de dissonances permanentes, et ça c'est extrêmement réussi. Et puis, il y a le thème de l'homosexualité, l'attente que de Sacy, là aussi, ne surexploite jamais, n'instrumentalise jamais. Et ben, le résultat est là, c'est un très beau film aux allures douces et amères, absolument réussi.
On le rappelle avec François Damien, c'est Isabelle Carré.
La fille d'un grand amour.
Personne n'y comprend rien, c'est un film de Yannick Kergoat. Les Français sont bien en peine de résumer ce qu'on me reproche. Personne n'y comprend rien, se rassure Nicolas Sarkozy au sujet de ses liens avec le colonel Kadhafi. Voici le film qui va enfin vous permettre de tout comprendre. Et c'est très drôle, à la fin de la bande-annonce, il est marqué le 6 janvier au tribunal et le 8 janvier au cinéma.
Mais oui, alors bon, il faut laisser la justice travailler sereinement, nous en serons tous d'accord, mais on s'amuse vraiment des cris d'orfraie poussés effectivement par certains, parce que ce film sort au moment du procès. Ben non, c'est très utile.
L'enquête de Fabrice Arfi.
C'est l'enquête de Fabrice Arfi, il faut le dire, et elle repose aussi d'ailleurs sur l'enquête des juges qui en sont là de leur conclusion, en tous les cas pour aller au procès, de dire, il n'y a certes pas de preuves irréfutables de la corruption, mais un faisceau concordant d'indices très troublants. Donc c'est ça l'enquête du film, et c'est magnifique. Au fond, la morale du film aussi, c'est qu'il y a une certitude, c'est que Sarko rime avec culot.
Hiver à... Ben ça aussi, ça rime. Hiver à Sokcho. C'est un premier film de Kolya Kamoura. À Sokcho, petite ville balnéaire de Corée du Sud, Soa, 23 ans, mène une vie routinière entre ses visites à sa mère, marchande de poissons, et sa relation avec son petit ami, jusqu'à l'arrivée d'un Français, Yann Kéran, dans la petite pension dans laquelle elle travaille. Et ce Français est incarné par Roche Dizem, douceur d'une héroïne derrière un abandon cruel et dans des paysages tranquilles. Et heureusement, une touche d'ambiguïté dans les relations entre les deux.
Oui, il y a un phénomène très curieux, c'est le voyage en Asie des acteurs français. Huppert y va régulièrement, Deneuve y est allé, elle va y retourner avec Eric Kou prochainement, Duris y est allé au Japon récemment, c'est autour de Roche Dizem. Ouais. Mais je trouve ça, c'est un tropisme intéressant parce que à chaque fois, l'idée c'est de confronter, évidemment, de frontalement notre culture avec les leurs ou la leur qui est radicalement différente. Et de ce point de vue-là, je trouve que le couple du film fonctionne assez bien dans la façon, avec la figure paternelle au centre, dans la façon de raconter quelque chose de très violent de façon douce.
Une grande reprise, cette fois japonaise, c'est bien sûr du grand Ozu, c'est Gosse de Tokyo, Laurent.
On ne parle pas d'Ozu sans trembler. Donc je tremble, et je vous dis, si vous n'avez jamais vu ce film, allez-y, mais c'est évidemment du cinéma à l'état pur.
Deux festivals à signaler avant les cadeaux à nos invités.
Oui, du 16 au 20 janvier, on vous invite à aller à Carcassonne, et en tous les cas, à ce festival, si vous êtes à Carcassonne, la nouvelle édition du Festival du film politique de Carcassonne, thème magnifique, 21 films en compétition, 38 avant-premières, et notamment le nouveau film à découvrir de Atina Rachel Tsangari, cinéaste grec
intéressant. J'avais adoré ce film.
Voilà. Et puis sinon... du 13 au 18 janvier, à l'Opéra de Lyon, il y a une initiative très intéressante là aussi, qui est de parler de musique de film sans images, sans ciné-concert, uniquement uniquement avec des musiciens qui font de la musique du film, qui réinterprètent, notamment Raphaël Imbert, du 13 au 18 janvier à l'Opéra de Lyon.
Roulement de tambour, les cadeaux.
Ah, les cadeaux.
Éric de Marsan, est-ce que vous avez vu le film de Jacques Audiard, Emilia Pérez?
Je l'ai vu avant-hier soir.
Oh non,
alors ça tombe très très bien, parce qu'on va vous offrir le DVD... Qui vient de paraître, les deux viennent de paraître, le DVD c'est chez Pathé, et le vinyle et le CD chez c'est chez Sony, je dirais.
Vous avez une platine chez vous?
Oui, j'ai une platine.
Bah oui, plusieurs même. Vous êtes le dernier en avoir.
Mais oui, bah bien sûr.
Il a l'eau chaude.
Vous avez aimé le film?
Ah, j'ai adoré.
Adoré.
J'ai adoré.
La composition, justement, et les musiques et les chansons.
Clément Ducol et Camille. Et Camille, hein, il faut le dire, ce sont les deux auteurs.
Ça, c'est de la musique. Ça, c'est de la musique.
Ils ont reçu un Golden Globe pour une
exactement.
Un
Elle
mal,
et le,
Elle
et le film
exactement.
Et le film est en piste pour les Oscars et pour les Césars. Je pense que c'est pas encore fini.
Il a eu déjà 4 récompenses.
Tout à fait. C'est de bon augure. C'est de bon augure. Absolument.
Et pour notre ami Stéphane Le Rouge.
Stéphane Le Rouge, d'abord, le DVD d'un documentaire de Pierre Barou, Saravage, je pense que vous l'avez vu, mais il vient d'être republié par Arizona.
Magnifique.
C'est un superbe film où on croise évidemment Baden-Powell qui se promène à Rio avec le dénommé Pierre Barou. Oui. Et puis ce cinéaste que vous connaissez un petit peu, Bertrand Tavernier, sublime coffret 2 chez Tamasa, publié par Tamasa. Franchement, Autour de minuit, magnifique film avec un certain Herbie Hancock à la musique. Voilà, donc c'était pas mal non plus. Merveilleux livret, 3 heures de bonus,
merci,
etc.
Merci, très heureux de vous avoir rencontré, Éric de Marsan, vraiment. Merci à
merci
tous les deux. Merci Stéphane Le Rouge.
Merci à tous les deux.
Hommage à la Cinémathèque, hyper mérité jusqu'au 23 janvier.
Allez.
On va dire bienvenue sur Terre à une certaine petite Émilie. Sinon, merci à notre équipe, Valérie Ayestaraï, à la réalisation, Louise Tempéro à la préparation et Thierry Dupin à la programmation musicale.
Merci.
Au revoir.
Salut.